Chapitre 3, suite. Plusieurs mois passèrent. Christophe avait perdu l'espoir de sortir de sa ville. Le seul qui eût pu le sauver, Hassler, lui avait refusé son aide, et l'amitié du vieux Schultz ne lui avait été donnée que pour lui être aussitôt retirée. Il lui avait écrit une fois à son retour, et il en avait reçu deux lettres affectueuses. Mais par un sentiment de lassitude, et surtout à cause de la difficulté qu'il avait à s'exprimer par lettre, il tarda à le remercier de ses chères paroles. Il remettait de jour en jour sa réponse, et comme il allait enfin se décider à écrire, il reçut un mot de Kuntz lui annonçant la mort de son vieux compagnon. Schultz avait eu, disait-il, une rechute de bronchite qui dégénéra en pneumonie. Il avait défendu qu'on inquiétât Christophe, dont il parlait sans cesse. En dépit de sa faiblesse extrême et de tant d'années de maladie, une longue et pénible faim ne lui avait pas été épargnée. Il avait chargé Kuntz d'apprendre la nouvelle à Christophe, en lui disant que jusqu'à la dernière heure il avait pensé à lui, qu'il le remerciait de tout le bonheur qu'il lui devait, et que sa bénédiction le suivrait tant que Christophe vivrait. Ce que Kuntz ne disait pas, c'était que la journée passée avec Christophe avait été probablement l'origine de la rechute et la cause de la mort. Christophe pleura en silence, et il sentit alors tout le prix de l'ami qu'il avait perdu et combien il l'aimait. Il souffrit, comme toujours, de ne le lui avoir pas mieux dit. Maintenant, il était trop tard. Et que lui restait-il? Le bon Schultz n'avait fait que paraître, juste assez pour que le vide semblât plus vide, après qu'il n'était plus. Quant à Kuntz et à Potpetschmidt, ils n'avaient d'autre prix que l'amitié qu'ils avaient eue pour Schultz et que Schultz avait eue pour eux. Christophe leur écrivit une fois, et leurs relations en restèrent là. Il essaya aussi d'écrire à Modesta, mais elle lui fit répondre une lettre banale où elle ne parlait que de choses indifférentes. Il renonça à poursuivre l'entretien. Il n'écrivait plus à personne, et personne ne lui écrivit. Silence, silence. De jour en jour, le lourd manteau de silence s'abattait sur Christophe. C'était comme une pluie de cendres qui tombait sur lui. Le soir semblait venir déjà, et Christophe commençait à peine à vivre. Il ne voulait pas se résigner déjà. L'heure de dormir n'était pas venue. Il fallait vivre. Et il ne pouvait plus vivre en Allemagne. La souffrance de son génie comprimée par l'étroitesse de la petite ville l'exaspérait jusqu'à l'injustice. Ses nerfs étaient à nu. Tout le blessait au sang. Il était comme une de ces misérables bêtes sauvages qui agonisaient d'ennui dans les trous et les cages où on les avait enfermés au Stadtgarten, jardin de la ville. Christophe allait les voir par sympathie. Il contemplait leurs admirables yeux où brûlaient, s'éteignaient de jour en jour, des flammes farouches et désespérées. Ah, comme eût mieux valu le coup de fusil brutal qui délivre. Tout plutôt que l'indifférence féroce de ces hommes qui les empêchait de vivre et de mourir. Le plus oppressant pour Christophe n'était pas l'hostilité des gens. C'était leur nature inconsistante, sans forme et sans fond. Que n'avait-il à faire à l'opposition têtue d'une de ces races au crâne étroit et dur qui se refusent à comprendre toute pensée nouvelle? Contre la force, on a la force, le pic et la mine, qui taillent et font sauter la roche. Mais que peut-on contre une masse informe qui cède comme une gelée, s'enfonce sous la moindre pression et ne garde aucune empreinte? Toutes les pensées, toutes les énergies, tout disparaissait dans la fondrière. À peine si, quand une pierre tombait, quelques rides tressaillaient à la surface du gouffre. La mâchoire s'ouvrait, se refermait, et de ce qui avait été, il ne restait plus aucune trace. Ils n'étaient pas des ennemis. Plût à Dieu qu'ils fussent des ennemis. Ils étaient des gens qui n'avaient la force ni d'aimer, ni de haïr, ni de croire, ni de ne pas croire. En religion, en art, en politique, dans la vie journalière. Toute leur vigueur se dépensait à tâcher de concilier l'inconciliable. Surtout depuis les victoires allemandes, ils s'évertuaient à faire un compromis, un micmac écœurant de la force nouvelle et des principes anciens. Le vieil idéalisme n'avait pas été renoncé. C'eût été là un effort de franchise dont on n'était pas capable. On s'était contenté de le fausser pour le faire servir à l'intérêt allemand. À l'exemple de Hegel, serein et double, qui avait attendu jusqu'après Leipzig et Waterloo pour assimiler la cause de sa philosophie avec l'État prussien. L'intérêt ayant changé, les principes avaient changé. Quand on était battu, on disait que l'Allemagne avait l'humanité pour idéal. Maintenant qu'on battait les autres, on disait que l'Allemagne était l'idéal de l'humanité. Quand les autres patries étaient les plus puissantes, on disait avec Lessing que l'amour de la patrie était une faiblesse héroïque dont on se passait fort bien, et l'on s'appelait un citoyen du monde. À présent qu'on l'emportait, on n'avait pas assez de mépris pour les utopies à la française. Paix universelle, fraternité, progrès pacifique, droits de l'homme, égalité naturelle. On disait que le peuple le plus fort avait contre les autres un droit absolu, et que les autres, étant plus faibles, étaient sans droit contre lui. Il était Dieu vivant et l'idée incarnée, dont le progrès s'accomplit par la guerre, la violence, l'oppression. La force était devenue sainte, maintenant qu'on l'avait avec soi. La force était devenue tout idéalisme et toute intelligence. À vrai dire, l'Allemagne avait tant souffert, pendant des siècles, d'avoir l'idéalisme et de n'avoir pas la force, qu'elle était excusable, après tant d'épreuves, de faire le triste aveu qu'avant tout il fallait la force. Mais quelle amertume cachée dans cette confession du peuple de Herder et de Goethe. Cette victoire allemande était une abdication, une dégradation de l'idéal allemand. Hélas, il n'y avait que trop de facilité à cette abdication dans la déplorable tendance des meilleurs Allemands à se soumettre. Ce qui caractérise l'Allemand, disait Moser il y a déjà plus d'un siècle, c'est l'obéissance. Et Madame de Staël, ils sont vigoureusement soumis. Ils se servent de raisonnements philosophiques pour expliquer ce qu'il y a de moins philosophique au monde, le respect pour la force et l'attendrissement de la peur qui change de respect en admiration. Christophe retrouvait ce sentiment, du plus grand au plus petit, en Allemagne, depuis le Guillaume Tell de Schiller, ce petit bourgeois compassé, aux muscles de portefeuille, qui, comme dit le libre juif Verne, pour concilier l'honneur et la peur, passe devant le poteau du « cher monsieur Gessler », les yeux baissés, afin de pouvoir alléguer qu'il n'a pas vu le chapeau, pas désobéi. Jusqu'au vieux et respectable professeur Weiss, âgé de 70 ans, un des savants les plus honorés de la ville, qui, lorsqu'il voyait venir un Herr Leutnant, se hâtait de lui céder le haut du trottoir et de descendre sur la chaussée. Le sang de Christophe bouillait quand il était témoin d'un de ces menus actes de servilité journalière. Il en souffrait, comme si c'était lui-même qui s'était abaissé. Les manières hautaines des officiers, qu'il croisait dans la rue, leur raideur insolente, lui causaient une sourde colère. Il affectait de ne point se déranger pour leur faire place. Il leur rendait, en passant, l'arrogance de leur regard. Peu s'en fallut, plus d'une fois, qu'il ne s'attira une affaire. On eût dit qu'il la cherchait. Cependant, il était le premier à comprendre l'inutilité dangereuse de pareilles bravades. Mais il avait des moments d'aberration. La contrainte perpétuelle qu'il s'imposait, et ses robustes forces accumulées, qui ne se dépensaient point, le rendaient enragé. Alors il était prêt à commettre toutes les sottises. Il avait le sentiment que s'il restait encore un an ici, il était perdu. Il avait la haine du militarisme brutal qu'il sentait peser sur lui, de ses sabres sonnant sur le pavé, de ses faisceaux d'armes et de ses canons postés devant les casernes, la gueule braquée contre la ville, prêts à tirer. Des romans à scandale, qui faisaient grand bruit alors, dénonçaient la corruption des garnisons. Les officiers y étaient représentés comme des êtres malfaisants, qui, en dehors de leur métier d'automate, ne savaient qu'être oisifs, boire, jouer, s'endetter, se faire entretenir, médire les uns des autres, et, du haut en bas de la hiérarchie, abuser de leur autorité contre leurs inférieurs. L'idée qu'il serait un jour forcé de leur obéir serrait Christophe à la gorge. Il ne le pourrait pas, non, il ne pourrait jamais le supporter, se déshonorer à ses yeux en subissant leurs humiliations et leurs injustices. Il ne savait pas quelle grandeur morale il y avait chez certains d'entre eux, et tout ce qu'ils souffraient eux-mêmes, leurs illusions perdues, tant de force, de jeunesse, d'honneur, de foi, de désir passionné du sacrifice, mal employé, gâché. Le non-sens d'une carrière qui, si elle est simplement une carrière, si elle n'a point le sacrifice pour but, n'est plus qu'une agitation morne, une inepte parade, un rituel qu'on récite sans croire à ce qu'on dit. La patrie ne suffisait plus à Christophe. Il sentait en lui cette force inconnue qui s'éveille, soudaine et irrésistible, chez les oiseaux, à des époques précises, comme le flux et le reflux de la mer, l'instinct des grandes migrations. En lisant les volumes de Herder et de Fichte, que le vieux Schultz lui avait légués, il y retrouvait des âmes comme la sienne, non des fils de la terre, servilement attachés à la glèbe, mais des esprits fils du soleil qui se tournent invinciblement vers la lumière. Où irait-il? Il ne savait, mais ses yeux regardaient vers le midi latin, et d'abord vers la France. La France, éternel recours de l'Allemagne en désarroi. Que de fois la pensée allemande s'était servie d'elle sans cesser d'en médire. Même depuis 70, quelle attraction se dégageait de la ville qu'on avait tenue fumante et broyée sous les canons allemands. Les formes de la pensée et de l'art les plus révolutionnaires et les plus rétrogrades y avaient trouvé tour à tour, et parfois en même temps, des exemples ou des inspirations. Christophe, comme tant d'autres grands musiciens allemands dans la détresse, se tournait vers Paris. Que connaissait-il des Français? Deux visages féminins et quelques lectures au hasard. Cela lui suffisait pour imaginer un pays de lumière, de gaieté, de bravoure, voire d'un peu de jactance gauloise, qui ne messiait pas à la jeunesse audacieuse du cœur. Il y croyait parce qu'il avait besoin d'y croire, parce que de toute son âme, il voulait que ce fût ainsi. Il résolut de partir, mais il ne pouvait partir à cause de sa mère. Louisa vieillissait. Elle adorait son fils, qui était toute sa joie, et elle était tout ce qu'il aimait le plus sur terre. Cependant, ils se faisaient souffrir mutuellement. Elle ne comprenait guère Christophe et ne s'inquiétait pas de le comprendre. Elle ne s'inquiétait que de l'aimer. Elle avait un esprit borné, timide, obscur, et un cœur admirable, un immense besoin d'aimer et d'être aimé, qui avait quelque chose de touchant et d'oppressant. Elle respectait son fils parce qu'il lui paraissait très savant, mais elle faisait tout ce qu'il fallait pour étouffer son génie. Elle pensait qu'il resterait toute sa vie auprès d'elle, dans leur petite église. Depuis des années, ils vivaient ensemble, et elle ne pouvait plus imaginer qu'il n'en serait pas toujours de même. Elle était heureuse ainsi. Comment ne l'eût-il pas été? Ses rêves n'allaient pas plus loin qu'à lui voir épouser la fille d'un bourgeois aisé de la ville, à l'entendre jouer à l'orgue de son église le dimanche, et à ne jamais le quitter. Elle voyait son garçon comme s'il avait toujours 12 ans. Elle eût voulu qu'il n'eût jamais davantage. Elle torturait innocemment le malheureux homme qui suffoquait dans cet étroit horizon. Pourtant, il y avait beaucoup de vrai, une grandeur morale, dans cette philosophie inconsciente de la mère, qui ne pouvait comprendre l'ambition et mettait tout le bonheur de la vie dans les affections de la famille et l'humble devoir accompli. C'était une âme qui voulait aimer, qui ne voulait qu'aimer. Renoncer plutôt à la vie, à la raison, à la logique, au monde, à tout, plutôt qu'à l'amour. Et cet amour était infini, suppliant, exigeant. Il donnait tout et il voulait tout. Il renonçait à vivre pour aimer et il voulait ce renoncement des autres, des aimés. Puissance de l'amour d'une âme simple. Elle lui fait trouver du premier coup ce que les raisonnements tâtonnants du génie incertain, comme Tolstoï, ou l'art trop raffiné d'une civilisation qui se meurt, concluent après une vie, des siècles de luttes forcenées et d'efforts épuisants. Mais le monde impérieux qui grondait dans Christophe avait de bien autres lois et réclamait une autre sagesse. Depuis longtemps, il voulait annoncer sa résolution à sa mère, mais elle tremblait à l'idée du chagrin qu'il lui ferait. Au moment de parler, il était lâche, et il remettait à plus tard. Deux ou trois fois, il fit de timides allusions à son départ. Louisa ne les prit pas au sérieux. Peut-être feignit-elle de ne pas les prendre au sérieux, pour lui persuader qu'il parlait ainsi par jeu. Alors, il n'osait poursuivre, mais il restait sombre, préoccupé. Et l'on se doutait qu'il avait sur le cœur un secret qui lui pesait. Et la pauvre femme, qui avait l'intuition de ce que pouvait être ce secret, s'efforçait peureusement d'en retarder l'aveu. À des instants de silence, le soir, quand ils étaient l'un près de l'autre, assis à la lumière de la lampe, brusquement elle sentait qu'il allait parler. Alors, prise de terreur, elle se mettait à parler, très vite et au hasard, n'importe de quoi, à peine si elle savait ce qu'elle disait. Mais à tout prix, il fallait l'empêcher de parler. D'ordinaire, son instinct lui faisait trouver le meilleur argument qui l'obligeât au silence. Elle se plaignait doucement de sa santé, de ses mains et de ses pieds gonflés, de ses jambes qui s'ankylosaient. Elle exagérait son mal, elle se disait une vieille impotente qui n'est plus bonne à rien. Il n'était pas dupe de ses ruses naïves. Il la regardait tristement avec un muet reproche. Et, après un moment, il se levait, prétextant qu'il était fatigué, qu'il allait se coucher. Mais tous ces expédients ne pouvaient sauver Louisa longtemps. Un soir qu'elle y avait de nouveau recours, Christophe ramassa son courage et, posant sa main sur celle de la vieille femme, il lui dit « Non, mère, j'ai quelque chose à te dire. » Louisa fut saisie, mais elle tâcha de prendre un air riant pour répondre, la gorge contractée, « Et quoi donc, mon petit ?» Christophe annonça, en balbutiant, son intention de partir. Elle tenta bien de prendre la chose en plaisanterie et de détourner la conversation comme à l'ordinaire. Mais il ne se déridait pas et continuait cette fois d'un air si volontaire et si sérieux qu'il n'y avait plus moyen de douter. Alors elle se tut, tout son sang s'arrêta, et elle restait muette et glacée à le regarder avec des yeux épouvantés. Une telle douleur montait dans ses yeux que la parole lui manqua, à lui aussi, et ils demeurèrent tous deux sans voix. Quand elle put enfin retrouver le souffle, elle dit, ses lèvres tremblaient, « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible !» Deux grosses larmes coulaient le long de ses joues. Il détourna la tête avec découragement et se cacha la figure dans ses mains. Ils pleurèrent. Après quelque temps, il s'en alla dans sa chambre et s'y enferma jusqu'au lendemain. Ils ne firent plus allusion à ce qui s'était passé. Et comme il n'en parlait plus, elle voulut se convaincre qu'il avait renoncé. Mais elle vivait dans des transes. Vint au moment où il ne put plus se taire. Il fallait parler, dut-il lui déchirer le cœur. Il souffrait trop. L'égoïsme de sa peine l'emportait sur la pensée de celle qu'il ferait. Il parla. Il alla jusqu'au bout, évitant de regarder sa mère, de peur de se laisser troubler. Il fixa même le jour de son départ pour n'avoir plus à soutenir une seconde discussion. Il ne savait pas s'il retrouverait une seconde fois le triste courage qu'il avait aujourd'hui. Louisa criait « Non, non, tais-toi !» Il se raidissait et continuait avec une résolution implacable. Quand il eut fini, elle sanglotait, il lui prit les mains et tâcha de lui faire comprendre comment il était absolument nécessaire à son art, à sa vie, qu'il partît pour quelque temps. Elle se refusait à écouter, elle pleurait et répétait « Non, non, je ne veux pas !» Après avoir vainement tenté de raisonner avec elle, il la laissa, pensant que la nuit changerait le cours de ses idées. Mais lorsqu'ils se retrouvèrent le lendemain, à table, il recommença sans pitié à reparler de son projet. Elle laissa retomber la bouchée de pain qu'elle portait à ses lèvres et dit d'un ton de reproche douloureux « Tu veux donc me torturer ?» Il fut ému, mais il dit « Chère maman, il le faut !»« mais non !» répétait-elle, « il ne le faut pas !» C'est pour me faire de la peine, c'est une folie. » Ils voulurent se convaincre l'un l'autre, mais ils ne s'écoutaient pas. Ils comprirent qu'il était inutile de discuter. Cela ne servait qu'à se faire souffrir davantage. Et il commença ostensiblement ses préparatifs de départ. Quand elle vit qu'aucune de ses prières ne l'arrêtait, Louisa tomba dans une tristesse morne. Elle passait ses journées enfermée dans sa chambre, sans lumière, quand le soir venait. Elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus. La nuit, il l'entendait pleurer. Il en était crucifié. Il eût crié de douleur dans son lit, où il se retournait toute la nuit, sans dormir, en proie à ses remords. Il l'aimait tant. Pourquoi fallait-il qu'il la fît souffrir? Hélas, elle ne serait pas la seule. Il le voyait clairement. Pourquoi le destin avait-il mis en lui le désir et la force d'une mission qui devait faire souffrir ceux qu'il aimait. « Ah, pensait-il, si j'étais libre, Si je n'étais pas contraint par cette force cruelle d'être ce que je dois être, ou sinon de mourir dans la honte et le dégoût de moi-même, comme je vous rendrais heureux, vous que j'aime. Laissez-moi vivre d'abord, agir, lutter, souffrir, et puis je vous reviendrai, plus aimant. Que je voudrais ne faire qu'aimer, aimer, aimer. Jamais elle n'eût résisté au reproche perpétuel de cette âme désolée, si ce reproche avait eu la force de rester muet. Mais Louisa, faible et un peu bavarde, ne put garder pour elle la peine qui l'étouffait. Elle l'a dit à ses voisines, elle l'a dit à ses deux autres fils. Ils ne pouvaient perdre une si belle occasion de mettre Christophe dans son tort. Surtout Rodolphe, qui n'avait pas cessé de jalouser son frère aîné, quoiqu'il n'en eût guère de raison pour le moment. Rodolphe, que le moindre éloge de Christophe blessait au vif, et qui redoutait en secret, sans oser s'avouer cette basse pensée, ses succès à venir, car il était assez intelligent pour sentir la force de son frère, et pour craindre que d'autres ne la sentissent comme lui. Rodolphe fut trop heureux d'écraser Christophe sous le poids de sa supériorité. Il ne s'était jamais préoccupé de sa mère, dont il savait la gêne. Bien qu'il fût largement en situation de lui venir en aide, il en laissait tout le soin à Christophe. Mais quand il apprit le projet de Christophe, il se découvrit sur le champ des trésors d'affection. Il s'indigna contre cette prétention d'abandonner sa mère, et il la qualifia de monstrueux égoïsme. Il eut le front d'aller le répéter à Christophe. Il lui fit la leçon de très haut, comme à un enfant qui mérite le fouet. Il lui rappela d'un air rogue ses devoirs envers sa mère et tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui. Christophe faillit en crever de rage. Il flanqua Rodolphe à la porte à coups de pied au cul, en le traitant de polisson et de chien d'hypocrite. Rodolphe se vengea en montant la tête à sa mère. Louisa, excitée par lui, commença à se persuader que Christophe agissait en mauvais fils. Elle entendait répéter qu'il n'avait pas le droit de partir, et elle ne demandait qu'à le croire. Au lieu de s'en tenir à ses pleurs, qui étaient son arme la plus forte, elle fit à Christophe des reproches injustes qui le révoltèrent. Ils se dirent l'un à l'autre des choses pénibles. Et le résultat fut que Christophe, qui jusque-là hésitait encore, ne pensa plus qu'à presser ses préparatifs de départ. Il sut que les charitables voisins s'apitoyaient sur sa mère, et que l'opinion du quartier la représentait comme une victime, et lui comme un bourreau. Il serra les dents et ne démordit plus de sa résolution. Les jours passaient. Christophe et Louisa se parlaient à peine. Au lieu de jouir, jusqu'à la moindre goutte, des derniers jours passés ensemble, ces deux êtres qui s'aimaient perdaient le temps qui leur restait, comme c'est trop souvent le cas, en une de ces stériles bouderies où s'engloutissent tant d'affections. Ils ne se voyaient qu'à table, où ils étaient assis l'un en face de l'autre, ne se regardant pas, ne se parlant pas, se forçant à manger quelques bouchées, moins pour manger que pour se donner une contenance. À grand-peine, Christophe parvenait à extraire quelques mots de sa gorge. Mais Louisa ne répondait pas, et quand à son tour elle voulait parler, c'était lui qui se taisait. Cet état de choses était intolérable pour tous deux, et plus il se prolongeait, plus il devenait difficile d'en sortir. Allait-il donc se séparer ainsi? Louisa se rendait compte maintenant qu'elle avait été injuste et maladroite, mais elle souffrait trop pour savoir comment regagner le cœur de son fils, qu'elle pensait avoir perdu, et empêcher ce départ dont elle se refusait à envisager l'idée. Christophe regardait à la dérobée le visage blême et gonflé de sa mère, et il était bourrelé de remords. Mais décidé à partir, et sachant qu'il y allait de sa vie, il souhaitait lâchement d'être déjà parti pour s'enfuir de ses remords. Son départ était fixé au surlendemain. Un de leurs tristes tête-à-tête venait de finir. Au sortir du souper, où il ne s'était pas dit un mot, Christophe s'était retiré dans sa chambre, et assis devant sa table, la tête dans ses mains, incapable d'aucun travail, il se rongeait l'esprit. La nuit s'avançait. Il était près d'une heure du matin. Tout à coup, il entendit du bruit, une chaise renversée, dans la chambre voisine. La porte s'ouvrit, et sa mère, en chemise, pieds nus, se jeta à son cou en sanglotant. Elle brûlait de fièvre, elle embrassait son fils, et elle gémissait au milieu de ses hoquets de désespoir, ne pars pas, ne pars pas, je t'en supplie. Je t'en supplie, mon petit, ne pars pas. J'en mourrai. Je ne peux pas le supporter. » Bouleversé et effrayé, il l'embrassait, répétant, « Chère maman, calme-toi, calme-toi, je t'en prie. » Mais elle continuait, « Je ne peux pas le supporter, je n'ai plus que toi. Si tu pars, qu'est-ce que je deviendrai? Je mourrai si tu pars. Je ne veux pas mourir loin de toi. Je ne veux pas mourir seule. Attends que je sois morte. » Ces paroles lui déchiraient le cœur. Il ne savait que dire pour la consoler. Quelle raison pouvait tenir contre ce déchaînement d'amour et de douleur? Il la prit sur ses genoux et tâcha de la calmer avec des baisers et des mots affectueux. La vieille femme se taisait peu à peu et pleurait doucement. Quand elle fut un peu apaisée, il lui dit « Recouche-toi, tu vas prendre froid. » Elle répéta « Ne pars pas. » Il dit tout bas « Je ne partirai pas. » Elle tressaillit et lui saisit la main. « C'est vrai ? » dit-elle. « C'est vrai ?» Il détourna la tête avec découragement. « Demain, dit-il, demain, je te dirai. Laisse-moi, je t'en supplie. » Elle se leva doucement et regagna sa chambre. Le lendemain matin, elle avait honte de cette crise de désespoir qui s'était emparée d'elle, comme une folie, au milieu de la nuit. Et elle tremblait de ce que son fils allait lui dire. Elle l'attendait, assise, dans un coin de sa chambre. Elle avait pris un tricot pour s'occuper, mais ses mains se refusaient à le tenir. Elle le laissa tomber. Christophe entra. Ils se dirent bonjour à mi-voix, sans se regarder en face. Il était sombre. Il alla se poster devant la fenêtre, le dos tourné à sa mère, et il resta sans parler. Un combat se livrait en lui. Il en savait trop le résultat d'avance, et il cherchait à le retarder. Louisa n'osait lui adresser la parole et provoquer la réponse qu'elle attendait et redoutait. Elle se força à reprendre le tricot, mais elle ne voyait pas ce qu'elle faisait et ses mailles allaient de travers. Dehors, il pleuvait. Après un long silence, Christophe vint près d'elle. Elle ne fit pas un mouvement, mais son cœur battait. Christophe la regardait immobile. Puis, brusquement, il se jeta à genoux, cacha sa figure dans la robe de sa mère, et sans dire un mot, il pleura. Alors elle comprit qu'il restait, et son cœur s'allégea d'une angoisse mortelle. Mais aussitôt le remords y entra, car elle sentit tout ce que son fils lui sacrifiait, et elle commença de souffrir tout ce que Christophe avait souffert, quand c'était elle qu'il sacrifiait. Elle se pencha sur lui, et couvrit de baisers son front et ses cheveux. Ils mêlèrent en silence leurs larmes et leurs peines. Enfin, il releva la tête, et Louisa, lui prenant la figure dans ses mains, le regardait, les yeux dans les yeux. Elle eût voulu lui dire « Pars !» et elle ne le pouvait pas. Il eût voulu lui dire « Je suis heureux de rester !» et il ne le pouvait pas. La situation était inextricable. Ni l'un ni l'autre n'y pouvait rien changer. Elle soupira dans son douloureux amour. Ah, si l'on pouvait être nés tous ensemble, pour mourir tous ensemble. Ce vœu naïf le pénétra de tendresse. Il essuya ses larmes, et, s'efforçant de sourire, il dit « On mourra tous ensemble. » Elle insistait « bien sûr, tu ne pars pas. » Il se releva. « C'est dit, n'en parlons plus. Il n'y a plus à y revenir. » Christophe tint parole. Il ne parla plus du départ. Mais il ne dépendait pas de lui qu'il n'y pensât plus. Il resta, mais il fit chèrement payer son sacrifice à sa mère par sa tristesse et sa mauvaise humeur. Et Louisa, maladroite, d'autant plus maladroite qu'elle savait qu'elle l'était et faisait immanquablement ce qu'il ne fallait pas faire, Louisa, qui ne connaissait que trop la cause de son chagrin, insistait pour qu'il la dît. Elle le harcelait de sa chère affection, inquiète, vexante, raisonneuse, qui lui rappelait à tout instant qu'ils étaient différents l'un de l'autre, ce qu'il tâchait d'oublier. Combien de fois avait-il voulu s'ouvrir à elle avec confiance? Mais au moment de parler, la muraille de Chine se relevait entre eux, et il renfonçait ses secrets. Elle le devinait, mais elle n'osait pas provoquer ses confidences, ou elle ne savait pas le faire. Quand elle essayait, elle ne réussissait qu'à refouler encore plus profondément ce secret qui lui pesait tant et qu'il brûlait de dire. Mille petites choses, d'innocentes manies, la séparaient aussi de Christophe, qu'elles irritaient. La bonne vieille radotait un peu. Elle avait un besoin de répéter les commérages du voisinage, ou cette tendresse de nourrice qui s'obstine à rappeler les niaiseries des premières années, tout ce qui vous rattache au berceau. On a eu tant de peine à en sortir, à devenir un homme. Et il faut que la nourrice de Juliette vienne vous étaler les langes sales, les médiocres pensées, toute cette époque néfaste, où une âme naissante se débat contre l'oppression de la vile matière du milieu étouffant. Au milieu de tout cela, elle avait des élans de tendresse touchante, comme avec un petit enfant, qui lui prenait le cœur, et il s'y abandonnait, comme un petit enfant. Le pire était de vivre, du matin au soir, comme il faisait, ensemble, toujours ensemble, isolés du reste des gens. Lorsqu'on souffre étant deux, et qu'on ne peut remédier à la souffrance l'un de l'autre, il est fatal qu'on l'exaspère. Chacun finit par rendre l'autre responsable de ce qu'il souffre, et chacun finit par le croire. Mieux vaudrait être seul, on est seul à souffrir. C'était pour tous deux une torture de chaque jour. Ils n'en seraient jamais sortis si le hasard n'était venu, comme il arrive souvent, trancher d'une façon malheureuse en apparence, intelligente au fond, l'indécision cruelle où ils se débattaient. Un dimanche d'octobre, 4 heures de l'après-midi. Le temps était radieux. Christophe était resté tout le jour dans sa chambre, replié sur lui-même, suçant sa mélancolie. Il n'éteint plus. Il eut un besoin furieux de sortir, de marcher, de dépenser sa force, de s'exténuer de fatigue, afin de ne plus penser. Il était en froid avec sa mère depuis la veille. Il fut sur le point de s'en aller sans lui dire au revoir. Mais déjà, sur le palier, il pensa au chagrin qu'elle en aurait pour toute la soirée où elle resterait seule. Il rentra, se donnant le prétexte qu'il avait oublié quelque chose. La porte de la chambre de sa mère était entrebâillée. Il passa la tête par l'ouverture. Il vit sa mère quelques secondes. Quelle place ces secondes devaient tenir dans le reste de sa vie. Louisa venait de rentrer des vêpres. Elle était assise à sa place favorite dans l'angle de la fenêtre. Le mur de la maison d'en face, d'un blanc sale et crevassé, masquait la vue. Mais de l'encoignure où elle était, on pouvait voir à droite, par-delà les deux cours des maisons voisines, un petit coin de pelouse, grand comme un mouchoir de poche. Sur le rebord de la fenêtre, un pot de volubilis grimpait le long de ficelles et tendait sur l'échelle aérienne son fin réseau, qu'un rayon de soleil caressait. Louisa, assise sur une chaise basse, le dos rond, sa grosse Bible ouverte sur ses genoux, ne lisait pas. Ses deux mains posées à plat sur le livre, ses mains aux veines gonflées, aux ongles de travailleuse, carrées et un peu recourbées, elle couvait des yeux avec amour la petite plante et le lambeau de ciel qu'on voyait au travers. Un reflet de soleil sur les feuilles vert doré éclairait son visage fatigué, marbré d'un peu de coupe rose, ses cheveux très blancs et peu épais, et sa bouche entr'ouverte qui souriait. Elle jouissait de cette heure de repos. C'était son meilleur moment de la semaine. Elle en profitait pour se plonger dans cet état très doux à ceux qui peinent, où l'on ne pense à rien. Dans la torpeur de l'être, rien ne parle plus que le cœur à demi endormi. « Maman, dit-il, j'ai envie de sortir. Je vais faire un tour du côté de Buire. Je rentrerai un peu tard. » Louisa, qui somnolait, tressaillit légèrement. Puis elle tourna la tête vers lui et le regarda de ses bons yeux paisibles. « Va, mon petit, lui dit-elle. Tu as raison, profite du beau temps. » Elle lui sourit, il lui sourit. Ils restèrent un instant à se regarder. Puis ils se firent un petit bonsoir affectueux, de la tête et des yeux. Il referma doucement la porte. Elle revint lentement à sa rêverie, où le sourire de son fils jetait un reflet lumineux, comme le rayon du soleil sur les feuilles pâles du volubilis. Ainsi il la laissa pour toute sa vie. Soir d'octobre. Un soleil tiède et pâle. La campagne languissante s'assoupit. De petites cloches de village tintent sans se presser dans le silence des champs. Au milieu de la bourre, des colonnes de fumée montent lentement. Une fine brume flotte au loin. Les brouillards blancs, tapis dans la terre humide, attendent pour se lever l'approche de la nuit. Un chien de chasse, le nez rivé au sol, décrivait des circuits dans un champ de betteraves. Des troupes de corneilles tournaient dans le ciel gris. Christophe, tout en rêvant et sans s'être fixé de but, allait d'instinct vers un but. Depuis quelques semaines, ses promenades autour de la ville gravitaient vers un village où il était sûr de rencontrer une belle fille qui l'attirait. Ce n'était qu'un attrait, mais fort vif et un peu trouble. Christophe ne pouvait guère se passer d'aimer quelqu'un. Son cœur restait rarement vide. Toujours il était meublé de quelque image qui en était l'idole. Peu lui importait, le plus souvent, que cette idole sût qu'il l'aimait. Mais il avait besoin d'aimer. Il fallait qu'il ne fît jamais nuit dans son cœur. L'objet de la flamme nouvelle était la fille d'un paysan qu'il avait rencontré comme Eliezer rencontra Rebecca auprès d'une fontaine. Mais elle ne lui avait pas offert à boire. Elle lui avait jeté de l'eau à la figure. Agenouillée au bord d'un ruisseau, dans un creux de la berge, entre deux saules dont les racines formaient autour d'elle comme un nid, elle lavait du linge avec vigueur, et sa langue n'était pas moins active que ses bras. Elle causait et riait très fort avec d'autres filles du village qui lavaient de l'autre côté du ruisseau. Christophe s'était couché sur l'herbe à quelques pas, et le menton appuyé sur ses mains, il les regardait. Cela ne les intimidait guère. Elles continuaient leur bavardage en un style qui ne manquait pas de verdeur. À peine écoutait-il. Il entendait seulement le son de leur voix riante, mêlée au bruit des battoirs, au lointain meuglement des vaches dans les prés. Et il rêvassait, ne quittant pas des yeux la belle lavandière. Les filles ne tardèrent pas à distinguer l'objet de ses attentions. Elles y firent entre elles des allusions malignes. Sa préférée ne lançait pas à son adresse les remarques les moins mordantes. Comme il ne bougeait toujours point, elle se leva, prit un paquet de linge lavé et tordu, et se mit à l'étendre sur les buissons, en se rapprochant de lui, afin d'avoir un prétexte pour le dévisager. En passant à côté, elle s'arrangea de façon à l'éclabousser avec ses draps mouillés, et elle le regarda effrontément, en riant. Elle était maigre et robuste, le menton fort, un peu en galoche, le nez court, les sourcils bien arqués, les yeux bleu foncé, hardis, brillants et durs, la bouche belle, aux lèvres grosses, avançant un peu comme celle d'un masque grec, une masse de cheveux blonds tordus sur la nuque et le teint hâlé. Elle portait la tête très droite, ricanait à chaque mot qu'elle disait, et marchait comme un homme en balançant ses mains ensoleillées. Elle continuait d'étendre son linge en regardant Christophe d'un regard provoquant, attendant qu'il parlât. Christophe la fixait aussi, mais il ne désirait aucunement lui parler. À la fin, elle lui éclata de rire au nez et s'en retourna vers ses compagnes. Il resta à sa place, étendu, jusqu'à ce que le soir tombât, et qu'il la vit partir, sa hotte sur le dos et ses bras nus croisés, courbant l'échine, toujours causant et riant. Il la retrouva deux ou trois jours après au marché de la ville, au milieu des montagnes de carottes, de tomates, de concombres et de choux. Il flânait, regardant la foule des marchandes, qui se tenaient debout, alignées devant leurs paniers, comme des esclaves à vendre. L'homme de la police passait devant chacune avec son escarcelle et son rouleau de tickets, recevant une piécette, délivrant un papier. La marchande de café allait de rang en rang, avec une corbeille pleine de petites cafetières. Une vieille religieuse, joviale et rebondie, faisait le tour du marché, deux grands paniers au bras, et, sans humilité, quémandait des légumes en parlant du bon Dieu. On criait, les antiques balances au plateau peint en verre cliquetaient et tintaient avec un bruit de chaîne. Les gros chiens, attelés aux petites voitures, aboyaient joyeusement, tout fiers de leur importance. Au milieu de la cohue, Christophe aperçut Rebecca. De son vrai nom, elle s'appelait Lortien. Sur son blond chignon, elle avait mis une feuille de chou, blanche et verte, qui lui faisait un casque dentelé. Assise sur un panier, devant des tas d'oignons dorés, de petites raves roses, de haricots verts et de pommes rubicondes, elle croquait ses pommes l'une après l'autre, sans s'occuper de les vendre. Elle ne cessait pas de manger. De temps en temps, elle s'essuyait le menton et le cou avec son tablier, relevait ses cheveux avec son bras, se frottait la joue contre son épaule ou le nez au dos de sa main. Ou, les mains sur ses genoux, elle faisait passer indéfiniment de l'une à l'autre une poignée de petits pois. et elle regardait à droite, à gauche, d'un air désœuvré. Mais elle ne perdait rien de ce qui se faisait autour d'elle, et, sans en avoir l'air, elle cueillait tous les regards qui lui étaient destinés. Elle vit parfaitement Christophe. En causant avec les acheteurs, elle fronçait le sourcil pour observer par-dessus leur tête son admirateur. Elle semblait digne et grave, comme un pape. Mais, sous cap, elle se moquait de Christophe. Il le méritait bien. Il restait là, planté, à quelques pas, la dévorant des yeux, et puis il s'en alla, sans lui avoir parlé. Il revint plus d'une fois rôder autour du village où elle habitait. Elle allait et venait dans la cour de sa ferme, il s'arrêtait sur la route pour la regarder. Il ne s'avouait pas que c'était pour elle qu'il venait, et en vérité c'était presque sans y penser. Quand il était absorbé par la composition d'une œuvre, il se trouvait dans un état de somnambule. Tandis que son âme consciente suivait ses pensées musicales, le reste de son être demeurait livré à l'autre âme inconsciente qui guette la moindre distraction de l'esprit pour prendre la clé des chants. Il était souvent étourdi par le bourdonnement de la musique quand il se trouvait en face d'elle, et il continuait de rêvasser en la regardant. Il n'eût pas pu dire qu'il l'aima, il n'y songeait même pas. Il avait plaisir à la voir, rien de plus. Il ne se rendait pas compte du désir qui le ramenait vers elle. Cette insistance faisait jaser. On s'en gaussait à la ferme, où l'on avait fini par savoir qui était Christophe. On le laissait tranquille, d'ailleurs, car il était inoffensif. Pour tout dire, il avait l'air d'un sot, et il ne s'en inquiétait pas. C'était la fête au village. Des gamins écrasaient les pois fulminants entre deux cailloux en criant « Vive l'empereur ! Kaiser lebe, hoch !» On entendait meugler un veau, enfermé dans son étable, et les chants des buveurs au cabaret. Des cerfs volant aux queues de comète frétillaient dans l'air au-dessus des champs. Les poules grattaient avec frénésie le fumier d'or. Le vent s'engouffrait dans leurs plumes comme dans les jupes d'une vieille dame. Un cochon rose dormait voluptueusement sur le flanc au soleil. Christophe se dirigea vers le toit rouge de l'auberge des Trois Rois, au-dessus duquel flottait un petit drapeau. Des chapelets d'oignons étaient pendus à la façade, et les fenêtres étaient garnies de fleurs de capucine rouges et jaunes. Il entra dans la salle, pleine de fumée de tabac, où s'étalaient au mur des chromos jaunis, et à la place d'honneur, le portrait colorié de l'empereur roi, entouré d'une guirlande de feuilles de chêne. On dansait. Christophe était bien sûr que sa belle amie serait là, et en effet, ce fut la première figure qu'il aperçut. Il s'établit dans un angle de la pièce, d'où il pouvait suivre en paix les évolutions des danseurs. Mais, quelque soin qu'il eût pris pour ne pas être remarqué, l'Orchionne sut bien le découvrir dans son coin. Tout en tournant d'interminables valses, elle lui lançait par-dessus l'épaule de son danseur de rapides œillades. Et pour mieux l'exciter, elle coquetait avec les garçons du village, en riant de sa grande bouche bien fendue. Elle parlait fort et disait des niaiseries, ne différant point en cela de ces jeunes filles du monde, qui, lorsqu'on les regarde, se croient obligées de rire, de s'agiter, d'être sottes pour la galerie, au lieu de le rester pour elles seules. En quoi elles ne sont pas si sottes, car elles savent que la galerie les regarde et ne les écoute pas. Christophe, les coudes sur la table et le menton sur le poing, suivait le manège de la fille avec des yeux ardents et furieux. Il avait l'esprit assez libre pour n'être pas dupe de ses roueries. Mais il ne l'avait pas assez pour ne pas s'y laisser prendre. Et tour à tour il grognait de colère, ou bien il riait sous cap et haussait les épaules, de donner dans le panneau. Un autre l'observait, c'était le père de l'Orchionne. Petit et trapu, une grosse tête au nez court, le crâne chauve rissolé par le soleil, avec une couronne de cheveux qui avait été blond et frisotait par boucles épaisses comme un Saint-Jean de Durer bien rasé, la figure impassible, sa longue pipe au coin de la bouche, il causait très lentement avec d'autres paysans, tout en suivant du coin de l'œil la mimique de Christophe. Et il avait un rire silencieux. À un moment, il toussota. Un éclair de malice brillait dans ses petits yeux gris. Il vint s'asseoir à côté de la table de Christophe. Christophe, mécontent, tourna vers lui un visage renfrogné. Il rencontra le regard narquois du vieux, qui, sans extraire sa pipe de sa bouche, lui adressa familièrement la parole. Christophe le connaissait, il le tenait pour une vieille canaille. Mais le faible qu'il avait pour la fille le rendait indulgent pour le père, et même lui inspirait un bizarre plaisir à se trouver avec lui. Le vieux malin s'en doutait. Après avoir parlé de la pluie et du beau temps, et fait une allusion goguenarde aux belles filles, et à ce qu'il ne dansait pas, il conclut que Christophe avait bien raison de ne pas se donner de mal, et qu'on était mieux à table, les coudes devant son pot, et il se fit inviter sans façon à en vider un. En buvant, le vieux causait sans se presser. Il parlait de ses petites affaires, de la difficulté qu'on avait à vivre, des mauvais temps, de la cherté de tout. Christophe ne répondait que par quelques grognements. Cela ne l'intéressait pas. Il regardait Lorchen. Il y avait des moments de silence. Le paysan attendait un mot. Nulle réponse ne venait. Il reprenait tranquillement. Christophe se demandait ce qui lui valait l'honneur de la société du vieux et de ses confidences. Il finit par comprendre. Le vieux, après avoir épuisé ses doléances, passa à un autre chapitre. Il vanta l'excellence de ses produits, de ses légumes, de sa volaille, de ses œufs, de son lait, et brusquement, il demanda si Christophe ne pourrait pas lui procurer la clientèle du château. Christophe sursauta. Comment diable, savait-il? Il le connaissait donc? Oui bien, dit le vieux, tout se sait. Il n'ajouta pas, quand on se donne la peine de faire sa petite police soi-même. Christophe se fit un malin plaisir de lui apprendre que, bien que tout se sût, on ne savait pas sans doute qu'il venait de se brouiller avec la petite cour, et que si jamais il avait pu se flatter de quelque crédit auprès de l'office et des cuisines du château, ce dont il doutait fort, ce crédit, à l'heure présente, était mort et enterré. Le vieux eut un froncement imperceptible de la bouche. Il ne se découragea pourtant pas, et après un moment, il demanda si Christophe ne pourrait pas du moins le recommander à telle et telle famille. Et il lui nomma toutes celles avec qui Christophe se trouvait en relation, car il s'était renseigné très exactement au marché. Christophe eût été furieux de cet espionnage, s'il n'avait eu plutôt envie de rire, en pensant que le vieux serait volé malgré toute sa malice. Car il ne se doutait pas que la recommandation qu'il demandait était plus capable de lui faire perdre sa clientèle que de lui en procurer de nouvelles. Il le laissa donc dévider en pure perte son écheveau de petite ruse grossière. Et il ne répondait ni oui ni non. Mais le paysan insistait, et, s'attaquant enfin à Christophe lui-même et à Louisa, qu'il avait gardé pour la fin, il voulut à toute force leur colloquer son lait, son beurre et sa crème. Il ajoutait que, puisque Christophe était musicien, rien ne faisait plus de bien pour la voix qu'un œuf frais avalé cru matin et soir. Et il se faisait fort de lui en fournir de tout chaud sorti du cul de la poule. Cette idée que le vieux le prenait pour un chanteur fit éclater de rire Christophe. Le paysan en profita pour faire venir une autre bouteille. Après quoi, ayant tiré de Christophe tout ce qu'il pouvait pour l'instant, il s'en alla sans autre cérémonie. La nuit était venue. Les danses étaient de plus en plus animées. Lorchen ne prêtait aucune attention à Christophe. Elle avait trop à faire de tourner la tête à un jeune drôle du village, fils d'un riche fermier que toutes les filles se disputaient. Christophe s'intéressait à la lutte. Ces demoiselles se souriaient, et elles se fussent griffées avec délices. Christophe, bon enfant, s'oubliait, et faisait des vœux pour le triomphe de Lorchen. Mais quand ce triomphe fut obtenu, il se sentit un peu triste. Il se le reprocha. Il n'aimait pas Lorchen. Il était bien naturel qu'elle aimât qui elle voulait. Sans doute. Mais il n'était pas gai de se sentir si seul. Tous ces gens ne s'intéressaient à lui que pour l'exploiter, et se moquaient de lui ensuite. Il soupira en regardant Lorchen que la joie de faire enrager ses rivales rendait 10 fois plus jolie, et il se disposa à partir. Il était près de 9 heures, il avait 2 bonnes lieues à faire pour rentrer en ville. Il se levait de table quand la porte s'ouvrit, et 10 dizaines de soldats firent irruption. Leur entrée jeta un froid dans la salle. Les gens se mirent à chuchoter. Quelques couples qui dansaient s'arrêtèrent pour jeter des regards inquiets sur les nouveaux arrivants. Les paysans, debout près de la porte, affectèrent de leur tourner le dos et de causer entre eux. Mais sans en avoir l'air, ils eurent bien soin de se ranger prudemment pour les laisser passer. Depuis quelque temps, tout le pays était en lutte sourde avec la garnison des forts qui entourait la ville. Les soldats s'ennuyaient à périr et se vengeaient sur les paysans. Ils se moquaient d'eux grossièrement, ils les malmenaient, Il traitait les filles comme en pays conquis. La semaine d'avant, quelques-uns d'entre eux, pris de vin, avaient troublé une fête dans un village voisin et assommé à moitié un fermier. Christophe, au courant des choses, partageait l'état d'esprit des paysans, et, se rasseyant à sa place, il attendit ce qui allait se passer. Les soldats, sans s'inquiéter de la malveillance qui accueillait leur entrée, allèrent bruyamment s'asseoir aux tables pleines, d'où ils bousculèrent les gens pour se faire place. Ce fut l'affaire d'un moment. La plupart s'écartèrent en grommelant. Un vieux, assis au bout d'un banc, ne se rangea pas assez vite. Ils soulevèrent le banc, et le vieux culbuta au milieu des éclats de rire. Christophe se leva indigné, mais comme il était sur le point d'intervenir, il vit le vieux qui se ramassait péniblement, et au lieu de se plaindre, se confondait en excuses. Deux des soldats vinrent à la table de Christophe. Il les regardait venir, serrant les poings. Mais il n'eut pas à se défendre. C'étaient deux grands diables athlétiques et bonasses, qui suivaient comme des moutons, un ou deux risque-tout, et tâchaient de les imiter. Ils furent intimidés par l'air hautain de Christophe, et quand il leur dit d'un ton sec « La place est prise !» Ils s'excusèrent précipitamment et se reculèrent au bout du banc afin de ne pas le gêner. Sa voix avait eu les inflexions du maître. La servilité naturelle reprenait le dessus. Il voyait bien que Christophe n'était pas un paysan. Christophe, un peu apaisé par cette attitude soumise, put observer les choses avec plus de sang-froid. Il n'eut pas de peine à voir que toute la bande était menée par un sous-officier, un petit bouledogue aux yeux durs, face de larbin hypocrite et méchant, un des héros de la bagarre de l'autre dimanche. Assis à une table voisine de Christophe, et déjà ivre, il dévisageait les gens et lançait des sarcasmes injurieux qu'ils affectaient de ne pas entendre. Il s'attaquait surtout aux couples qui dansaient, décrivant leurs avantages ou leurs défauts physiques, avec une ignominie d'expression qui soulevait les rires de ses compagnons. Les filles rougissaient et les larmes leur venaient aux yeux. Les garçons serraient les dents et rageaient en silence. Le regard du bourreau faisait lentement le tour de la salle, en épargnant personne. Christophe le vit venir vers lui. Il saisit sa chope et, le poing sur la table, il attendit, décidé à lui jeter le verre à la tête à la première insulte. Il se disait « Je suis fou, je ferais mieux de m'en aller, je vais me faire ouvrir le ventre. Et après, si j'en réchappe, on me mettra en prison. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Partons avant qu'il ne m'ait provoqué. » Mais son orgueil s'y refusait. Il ne voulait pas avoir l'air de fuir devant ces oiseaux-là. Le regard sournois et brutal se posa sur lui. Christophe, raidi, le fixa avec colère. Le sous-officier le considéra un instant. La figure de Christophe le mit en verve. Il poussa du coude son voisin, lui désigna le jeune homme en ricanant. Et déjà, il ouvrait la bouche pour l'injurier. Christophe, ramassé sur lui-même, allait lancer son verre à toute volée. Cette fois encore, le hasard le sauva. Au moment où l'ivrogne allait parler, un couple maladroit de danseurs vint buter contre lui et fit tomber son verre. Il se retourna furieux et déversa sur eux un tombereau d'injures. Son attention était détournée. Il ne pensait plus à Christophe. Celui-ci attendit encore quelques minutes, puis, voyant que son ennemi ne cherchait plus à reprendre l'entretien, il se leva, prit lentement son chapeau et s'achemina sans se presser vers la porte. Il ne quittait pas des yeux le banc où l'autre était assis pour bien lui faire sentir qu'il ne cédait pas devant lui. Mais le sous-officier l'avait décidément oublié, personne ne s'occupait de lui. Il tournait la poignée de la porte. Quelques secondes encore et il était dehors. Mais il était dit qu'il n'en sortirait pas indemne. Un brouhaha s'élevait dans le fond de la salle. Les soldats, après avoir bu, avaient décidé de danser. Et comme toutes les filles avaient leurs cavaliers, ils chassèrent les danseurs qui se laissèrent faire. Mais Lorchion ne l'entendait pas ainsi. Ce n'était pas pour rien qu'elle avait ses yeux hardis et ce menton volontaire qui plaisait à Christophe. Elle valsait comme une folle quand le sous-officier qui avait jeté son dévolu sur elle vint lui arracher son danseur. Elle tapa du pied, cria, et repoussant le soldat, elle déclara que jamais elle ne danserait avec un malotru comme lui. L'autre la poursuivit. Il bourrait le coup de poing les gens derrière lesquels elle cherchait à s'abriter. Enfin, elle se réfugia derrière une table. Et là, protégée de lui pendant un moment, elle reprit du souffle pour l'injurier. Elle voyait que sa résistance ne servirait à rien, et elle trépignait de fureur, cherchait les mots les plus blessants, et comparait sa tête à celle de divers animaux de la basse-cour. Lui, penché vers elle, de l'autre côté de la table, avait un mauvais sourire, et ses yeux luisaient de colère. Brusquement, il prit son élan et sauta par-dessus la table. Il l'empoigna. Elle se débattit comme une vachère à coups de poing et de pied. Il n'était pas trop bien d'aplomb sur ses jambes et faillit perdre l'équilibre. Furieux, il la poussa contre le mur et la gifla. Il ne recommença pas. Quelqu'un lui avait sauté sur le dos, le giflait à tour de bras et le lançait d'un coup de pied au milieu des buveurs. C'était Christophe qui s'était rué sur lui, bousculant tables et gens. Le sous-officier se retourna fou de rage, tirant son sabre. Avant qu'il eût pu s'en servir, Christophe l'assomma d'un coup d'escabeau. Le tout avait été si prompt qu'aucun des spectateurs n'eut l'idée d'intervenir. Mais quand on vit le soldat s'abattre sur le carreau comme un bœuf, un tumulte épouvantable s'éleva. Les autres soldats coururent sur Christophe, le sabre hors du fourreau. Les paysans se jetèrent sur eux. La mêlée fut générale. Les chopes volaient à travers la salle, les tables étaient renversées. Les paysans se réveillaient, il y avait de vieilles rancunes à assouvir. Les gens roulaient par terre et se mordaient avec fureur. Le danseur évincé de Lorchion, un solide valet de ferme, avait empoigné la tête d'un soldat qu'il avait insulté tout à l'heure et la martelait contre un mur. Lorchion, armé d'une trique, tapait comme une sourde. Les autres filles se sauvaient en hurlant, sauf deux ou trois gaillardes qui s'en donnaient à cœur joie. L'une d'elles, une grosse petite blonde, voyant un soldat gigantesque, le même qui s'était assis à la table de Christophe, défoncer à coups de genoux la poitrine de son adversaire renversée, courut au foyer, revint, et tirant en arrière la tête de la brute, elle lui appliqua dans les yeux une poignée de cendre brûlante. L'homme poussa des mugissements. La fille jubilait, insultant l'ennemi désarmé que les paysans maintenant assommaient à leur aise. Enfin, les soldats, trop faibles, se replièrent au dehors, laissant deux d'entre eux sur le carreau. La lutte continua dans la rue du village. Ils faisaient irruption dans les maisons en poussant des cris de mort et voulaient tout saccager. Les paysans les avaient suivis avec leurs fourches. Ils lançaient sur l'ennemi leurs chiens hargneux. Un troisième soldat tomba, le ventre troué d'un coup de trident. Les autres durent s'enfuir pour chasser jusqu'au-delà du village. Et de loin, ils criaient, en se sauvant à travers les champs, qu'ils allaient chercher les camarades et qu'ils reviendraient tout à l'heure. Les paysans, restés maîtres du terrain, retournèrent à l'auberge. Ils exultaient. C'était la revanche, depuis longtemps attendue, des avanies qu'ils avaient subies. Ils ne pensaient pas encore aux conséquences de l'échauffourée. Ils parlaient tous à la fois et chacun vantait ses prouesses. Ils fraternisèrent avec Christophe, tout joyeux de se sentir rapproché d'eux. Lorchion vint lui prendre la main et resta un instant à la tenir dans sa menotte rude en lui ricanant au nez. Elle ne le trouvait plus ridicule à cette heure. On s'occupa des blessés. Parmi les gens du village, il n'y avait que des dents cassées, quelques côtes enfoncées, des bosses et des bleus sans graves conséquences. Mais il n'en était pas de même des soldats. Trois étaient sérieusement atteints. Le colosse aux yeux brûlés, qui avait eu l'épaule à moitié emportée d'un coup de hache, l'homme éventré qui râlait, et le sous-officier assommé par Christophe. On les avait étendus par terre près du foyer. Le sous-officier, le moins blessé des trois, venait de rouvrir les yeux. Il regarda longuement, d'un regard chargé de haine, le cercle des paysans penchés autour de lui. À peine eut-il repris conscience de ce qui s'était passé, qu'il commença à les insulter. Il jurait qu'il se vengerait, qu'il leur ferait leur affaire à tous, il étranglait de rage. On sentait que s'il pouvait, il les exterminerait. Ils essayèrent de rire, mais leur rire était forcé. Un jeune paysan cria au blessé « Ferme ta gueule ou je te tue !» Le sous-officier essaya de se redresser, et fixant celui qui venait de parler avec ses yeux injectés de sang, « Salaud » dit-il, « tuez-moi, on vous coupera la tête !» Il continuait à vociférer. L'homme éventré poussait des cris aigus comme un cochon qu'on saigne. Le troisième était immobile et rigide comme un mort. Une terreur écrasante tomba sur les paysans. Lorchienne et quelques femmes emportèrent les blessés dans une autre chambre. Les vociférations du sous-officier et les cris du mourant s'assourdirent. Les paysans se taisaient, Il demeurait à la même place, faisant le cercle comme si les trois corps étaient toujours étendus à leurs pieds. Il n'osait pas bouger et se regardait épeuré. À la fin, le père de Lorsien dit « Vous avez fait de bel ouvrage ».